I'd like to have a democracy.
Paul Masson est formateur d'adultes, membre d'Attaque et de Culture et Liberté. Et la semaine dernière, dans Info 30, on a parlé du modèle démocratique en France et de son histoire. D'ailleurs, vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.radiopfm.com. Et aujourd'hui, Paul nous propose une grille de lecture parmi d'autres pour que chacune et chacun puisse se faire sa propre opinion sur les candidats.
Ce que je vous propose, c'est d'écouter les discours des candidats avec trois axes. Alors, les trois axes, je le dis, c'est le premier axe, ça sera la démocratie. Comment qu'ils se positionnent sur la démocratie? Comment qu'ils se positionnent sur le social? Et comment qu'ils se positionnent sur l'écologie? J'ai pris ces trois axes qui, pour moi, m'apparaissent dans une échelle de valeurs. Ça se situe dans une échelle de valeurs.
Premier axe, donc c'est l'axe démocratie. Les candidats donc, parlent de démocratie ou pas?
Alors, ce que je vous invite à écouter, c'est la manière dont ils se positionnent au niveau démocratie. La démocratie, on l'a vu, c'est une conquête, mais c'est la volonté du peuple. La volonté du peuple, elle se manifeste à travers des expressions simples. On l'a vu par rapport aux retraites, on la voit par rapport au pouvoir d'achat, retraite, pouvoir d'achat, protection sociale, on voit la volonté du peuple. Elle se manifeste régulièrement. Alors, de quelle manière les gens vont y répondre? Il y a un axe qui permettrait de voir ça, où on pourrait dire, d'un côté de cet axe, ce serait ceux qui seraient le plus proche de cette volonté du peuple. À l'autre bout de ce même axe, on va avoir des discours qui répondent à des intérêts, non pas du peuple, mais de ceux qui sont possesseurs de la richesse et essentiellement des marchés financiers. Quand le débat électoral se pose par rapport aux agences de notation, on est très loin de la volonté du peuple. Ce n'est pas sur ce pôle-là qu'on est en train de regarder. On est en train de regarder du côté de ce que demandent ceux qui sont propriétaires du capital, de la richesse. Et là, on n'est pas en démocratie, c'est ce qu'on appelle la ploutocratie. La définition que j'ai reprise par rapport à ça, c'est Ernest Renan. J'appelle ploutocratie un état de société où la richesse est le nerf principal des choses. À certains moments, on a l'impression qu'on est en débat électoral et qu'on ne se pose pas que demande le peuple et comment satisfaire les demandes du peuple, mais comment satisfaire les élites qui disposent de l'argent à l'échelle internationale et qui semblent commander. Et cet axe s'appuie sur une autre catégorie de citoyens qui sont relativement privilégiés, c'est ceux qui sont payés pour faire en sorte que l'organisation sociale réponde à ces intérêts de la finance. Pour nous expliquer qu'on ne peut pas faire autrement, pour nous expliquer qu'il y aurait des lois économiques qui viendraient, on ne sait pas d'où, du ciel peut-être, comme si l'économie ne correspondait pas à distribuer des revenus à des gens qui n'en ont pas. Et d'organiser les licenciements, on a une sorte, dans le pôle démocratique, une lecture entre ceux qui nous disent quels sont les intérêts du peuple et comment on va répondre à ce que vous demandez, et de l'autre côté, comment on ne va pas répondre aux intérêts du peuple parce que d'autres intérêts sont en jeu, mais qui nous sont présentés comme des intérêts qui ne seraient pas... On ne défend pas les riches, on ne peut pas faire autrement que de passer par les intérêts des riches. Donc ça peut être un axe de lecture sur l'axe démocratique.
Alors, deuxième axe que tu as choisi d'évoquer, c'est l'axe social. Alors, quels sont les pôles de cet axe social?
Alors, l'axe social, l'axe social est la continuité de ces droits démocratiques. On a bien vu que la démocratie n'est rien d'autre que l'acquisition d'un certain nombre de droits, mais de droits qui s'exerceraient pour tout le monde, que ce soit le droit de vote en 1789, que ce soit le droit de grève, le droit de s'organiser à travers la loi de 1901. Alors, au niveau de l'axe social, je mettrai deux pôles. Une vision qui va privilégier deux types de pôles au niveau du droit. Le droit de se protéger contre l'arbitraire des privilégiés, d'un côté, qui sera le plus social. Ça fera en sorte qu'il n'y ait pas des privilégiés qui puissent avoir des droits supérieurs à d'autres. Par rapport à ça, on est dans la logique du programme du Conseil national de la résistance qui disait on veut faire une société où tout le monde puisse vivre dignement. C'est le pouvoir d'achat, c'est la protection sociale, c'est les services publics, c'est les logements. Faire en sorte qu'on a ce type de droit qui est dans la logique d'une démocratie pour tout le monde. Et d'un autre côté de cet axe-là, un droit qui va être supérieur à ce droit-là, qui serait le droit de propriété. Et au nom du droit de propriété, on aurait le droit de remettre en cause les droits des citoyens. Je l'illustre, des agriculteurs qui vont prendre leurs semences pour ressemer leurs propres semences, on veut leur faire payer des droits pour des gens qui se sont appropriés le droit sur le vivant. Quels sont les droits privilégiés par les différents candidats? Et là, on va retrouver derrière ça, est-ce que ça va être le droit de s'approprier le vivant? Le débat sur le remboursement de la dette. Est-ce que ce qui est prioritaire, c'est de rembourser la totalité des agios sur la dette à des gens qui sont très très riches, plutôt que de faire en sorte qu'on ait du logement pour tout le monde? C'est un choix entre le droit de propriété et le droit des citoyens. Et c'est un axe de lecture du débat sur le social. Cet axe de lecture, il peut même être lu autour de, d'une part, quel poids on donne aux politiques et quel poids on donne aux marchés. C'est le même axe que le social par rapport au droit. Comment vont se faire les régulations entre les intérêts des différents citoyens? D'un côté, on aurait un pôle, c'est aux politiques. C'est-à-dire que les gens qu'on élit, eh ben, ce pourquoi on les élit, c'est pour qu'ils puissent voir quelles sont les priorités entre quoi pour l'éducation, quoi pour la santé, quoi pour le logement, quoi pour le transport, quoi pour l'investissement. Est-ce qu'on investit plutôt dans le nucléaire, les énergies renouvelables? Est-ce qu'on privilégie faire en sorte, par exemple, l'eau qui a un besoin ou l'électricité qui a un besoin pour tout le monde? C'est ça qui est prioritaire et pour tout le monde. Et il y a des régulations à faire, il y a à trancher dans ces besoins, mais on a élu des personnes pour trancher entre ces besoins. Et ça, ça serait le pôle qui permettrait de réguler entre les droits pour tout le monde. Et de l'autre côté, autour du droit de propriété, on va retrouver, c'est plus aux élus de choisir, c'est au marché de choisir. La question concernant l'éducation, la santé, le logement, les transports n'est plus un problème de politique. Ça va être chaque citoyen qui décidera quelle part il va mettre pour l'éducation de ses enfants par rapport à sa santé, par rapport à son logement, par rapport à ses transports ou ses loisirs. C'est lui qui serait maître de ça et ce serait le marché qui constaterait cette régulation. Et c'est un autre pôle politique. Et dans ce pôle politique, il est bien évident qu'une partie de la population est complètement exclue. Et elle est d'autant plus exclue qu'elle n'a pas de pouvoir d'achat, puisque ça va, le marché, c'est qui paye.
On est toujours en compagnie de Paul Masson, formateur d'adultes, membre d'Attaque et de Culture et Liberté, pour une deuxième séquence d'éclairage sur les présidentielles 2012. Je vous propose une courte pause musicale et on revient juste après ça.
Alors, troisième axe, c'est l'axe environnemental, Paul?
Alors là, je le pose entre deux pôles. Le pôle le plus loin de l'environnemental, qui serait ce qu'il faut pour nous, c'est qu'on ait une production de plus en plus importante, parce qu'on travaille plus, on produit plus, on pourra consommer plus. Ça va permettre de relancer l'économie et si on relance l'économie, eh ben, on aura davantage de profits qui permettront d'avoir de nouveaux investissements. Et comme il y aura de nouveaux investissements, il y aura moins de chômage. Et on a un pôle qui organise la société autour de dire les hommes sont des êtres de besoin. Pour chacun de leurs besoins, la société doit leur proposer des objets, des services sur un marché. Le marché régulera pour savoir quels sont les besoins prioritaires. Et on est dans une société du toujours plus qui est incompatible avec l'avenir de la planète. Puisque actuellement, en France, on consomme 3 fois plus que la planète est en mesure de se renouveler. Notre consommation en France. Donc on a ce pôle-là, et de l'autre côté, alors là j'ai pris le pôle le plus extrême, et le terme je le dois à Pierre Rabhit, qui va parler de sobriété heureuse. Alors qu'est-ce qu'il met là derrière? Il dit, dans les besoins, dans notre consommation, il ne remet pas en cause la consommation, pour vivre il faut consommer, on ne peut pas vivre sans manger, il ne remet pas en cause. Mais il dit, le prix à payer pour changer son portable. Le prix à payer en planète, mais aussi en temps disponible, en fatigue, en stress, en forme de vie où on perd, là je reprends la formule de 68, on perd sa vie à la gagner. Et effectivement, et pour aller où? Et qui invite à travailler moins, mais à travailler tous. Parce que ce système productiviste exclut de plus en plus de monde. Il y a de plus en plus de chômeurs. Travailler moins pour travailler tous, produire moins pour vivre mieux, et qui repose non plus les rapports entre les hommes uniquement en termes de marché de produits, que ce soit des objets ou des services qui se vendent, mais sur un type d'organisation sociale pour vivre. Donc on a ce troisième axe au niveau écologique, en sachant que les candidats ne sont pas ils sont sur les lignes que je vous ai indiquées. Il n'y en a pas un qui serait dans un pôle ou dans l'autre. On peut écouter les discours de chaque candidat qui vont jouer sur tel ou tel aspect de la ligne, quoi.
Alors une première question par rapport à ça, tu proposes qu'on se fasse sa propre opinion par rapport au positionnement de tel ou tel candidat sur tous les axes, mais finalement, est-ce que on connaît les programmes, est-ce que l'électeur lambda vote plutôt pour une personne ou pour le positionnement de tel ou tel candidat sur le programme, et puis est-ce que les programmes sont clair sur le positionnement des candidats, quoi.
Alors, effectivement, on ne vote pas tellement sur les programmes. Parce que si on veut avoir les programmes, d'ailleurs, il faut les chercher. Il y en a un certain nombre qui ne les ont pas. Ils sont rendus d'une manière pas forcément très, très accessible. Et c'est vrai que toute l'organisation de la campagne est faite non pas autour des programmes. Vous écoutez les discours électoraux, vous entendez plus parler de critiques de l'autre que d'entendre des personnes présenter leur programme. Deuxièmement, je ne sais pas combien il y a de candidats, mais il y en a certains que vous n'avez pas entendu leur nom. La campagne électorale, elle a commencé il y a 2 ans, lorsque les médias ont commencé à nous dire qu'on aurait à choisir entre Sarkozy et Strauss-Kahn. Il y a 2 ans, déjà, on était, enfoncez-vous ça dans la tête, on est à l'élection à 2 tours, on nous dit... L'enjeu, ça va se jouer entre ces... Alors, votez utile, c'est-à-dire ne pensez pas ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, ça sera entre lui et lui. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Effectivement, il y a un problème lié à l'information et utiliser plus ou moins volontairement, plus ou moins habilement par les candidats pour éviter de venir à ce qu'on comprenne leur choix. On peut dire qu'on est depuis un certain temps où les élites, les politiques travaillent pour les élites qui sont propriétaires de la richesse et que le peuple ne veut pas ça. Ça fait un certain nombre d'années que le compromis de 1945, c'est-à-dire on est d'accord pour le système capitaliste à condition que les salariés en profitent, qu'il y ait une élévation du pouvoir d'achat des personnes. En contrepartie, on ne remet pas en cause le système. Depuis les années 80, c'est remis en cause. Alors les candidats n'ont pas intérêt à annoncer clairement la couleur parce qu'ils feront perdre, ils vont perdre des voix. Donc il vaut mieux jouer sur les petites phrases, il vaut mieux jouer sur l'illusion, il vaut mieux jouer sur les images que d'expliquer clairement. Il y a un film qui va sortir qui s'appelle Les Nouveaux Chiens de Garde et qui présente bien, c'est un film qui a été fait par rapport à un livre, qui présente bien cette connivence entre ceux qui font les médias et ceux qui dirigent politiquement et ceux qui dirigent effectivement, c'est-à-dire les milieux de la finance. Les médias, les grands médias, ceux qui sont écoutés par tout le monde, qui sont vus par tout le monde, donnent une image qui a pour but de rendre flous les enjeux réels. Parce qu'il y a un décalage entre ce que proposent les candidats à qui on donne une place et ce que veut le peuple. Et si on le fait apparaître trop, ben le peuple il dira non.
Autre élément perturbateur hein, pour se faire une idée sur pour qui on va voter, c'est le fait qu'entre le programme et ce qui sera éventuellement appliqué politiquement dans les faits, eh ben, là, il peut y avoir aussi un fossé important.
Alors effectivement, et ce décalage s'est augmenté au cours des 20 dernières années avec le fait que les élus se sont privés de plus en plus de ce qui était leur force, mettant en place la Banque Centrale Européenne indépendante des États, les États n'ont plus la possibilité de décider de leur politique financière. Et alors après, ils ne disposent plus de cet outil parce qu'ils ont décidé à le refiler à la finance. Soit ils ont fait des discours et savaient pertinemment qu'ils ne les appliqueraient pas, et ça, ce n'est pas nouveau. Ce n'était pas Pasqua qui avait dit « Les discours des candidats n'engagent que ceux qui veulent y croire ». Ça, ce n'est pas nouveau. Mais maintenant, il y a aussi que, ben, de fait, les élus, en refilant les pouvoirs aux banquiers, eh ben, ils ne les ont plus, puisqu'ils ont décidé de leur refiler. I'd like to have a democracy. Democracy.
I'd like to have a. Paul Masson, formateur d'adultes, membre d'Attaque et de Culture et Liberté. On lui a demandé d'intervenir sur PFM pour une série d'éclairages sur les élections présidentielles 2012. La semaine prochaine, même heure et même fréquence, on parlera avec lui des différents courants de pensée représentés lors de ces élections 2012 en France. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter ces sujets en ligne sur le www.radiopfm.com. I'd like to have up many people on a street. Democracy.